RCF. Frère Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes frère cistercien, vous êtes aujourd'hui en Italie, vous avez été avant au Mondeca et vous nous parlez de la règle de Saint Benoît. On a vu hier que Saint Benoît se préoccupait dans sa règle du silence. C'est quelque chose qui occupe beaucoup de place dans cette règle de Saint Benoît. Ce sont des conseils qui datent de 1400 ans et puis on s'aperçoit que rien ne change ou presque. L'homme a toujours finalement besoin d'être guidé pour remettre Dieu au cœur de sa vie. Et c'est ce que fait la règle de Saint Benoît. Au cœur de cette règle, il y a aussi l'obéissance. Qu'est-ce que vous diriez de l'obéissance après 40 ans de vie de moine ?
Je dirais que l'obéissance, on la découvre avec le temps. En fait, au début, on la vit un petit peu comme une soumission, comme une correspondance, comme un moyen, au fond, d'entrer dans le cadre. Ça peut être comme ça, hein, tout au début. Puis avec le temps, on découvre que c'est vraiment un combat spirituel, un art. Parce que ça suppose de prendre conscience de tout ce à quoi on obéit en soi-même, hein, toutes les soumissions inconscientes qui existent à l'intérieur de nous, de choisir, au fond, un chemin de libération de tout cela. C'est-à-dire, je peux décider qu'au fond, je ne suis plus toutes ces peurs, tous ces doutes, toutes ces passions qui animent.
Je n'obéis plus à mes tourments.
Voilà, c'est ça. Pour pouvoir découvrir qui je suis et qui est Dieu. Et petit à petit, donc, entrer dans cette espèce de chemin de liberté que le Seigneur nous ouvre. Et à travers des gens très concrets, avec des situations très concrètes. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faudrait voir l'obéissance, comme vraiment un chemin de liberté.
Mais on est persuadé d'être libre.
Oui, mais on peut avoir des illusions.
On ne pense pas obéir, en fin de compte, à ce qui nous préoccupe, et c'est pourtant ce que vous venez de dire.
Oui. Mais je pense que la société de consommation fonctionne comme ça, sur une obéissance inconsciente, à des tas de stimuli extérieurs qui font que nous faisons des choses, nous pensons les choisir, en fait, on les a insérés dans notre esprit.
Alors vous dites qu'il y a deux pièges à l'obéissance, en tout cas Saint Benoît en parle et vous le relevez. D'abord ce serait de croire qu'on est obligé et ensuite ce serait de le faire de mauvaise grâce en ronchonnant.
Oui, parce que c'est une manière de rester au niveau purement extérieur de l'obéissance, sans entrer justement dans ce chemin de découverte intérieure. Et là, c'est vraiment, bon, c'est la tentation de chacun de nous. Hein. Tant qu'on n'a pas fait une expérience du bienfait, on le vit comme quelque chose qui opprime, quoi, qui empêche. Alors on essaie de manipuler soit celui qui va nous donner des ordres, soit on modifie, on fait semblant de ne pas entendre, ou bien on n'entend même pas. Il y a des gens parfois qui font exactement le contraire de ce qu'on leur demande, simplement parce qu'ils sont persuadés qu'on ne leur a pas demandé ça, que ce n'était pas possible qu'on demande ça, etc. Donc il y a des tas de manières, de scénarios qui se mettent en place à propos de l'obéissance.
Mais on comprend bien que dans la communauté, parfois ce que dit un abbé peut nous sembler ne pas aller dans le bon sens. Il y a parfois eu aussi des abus de pouvoir. Ça peut être le lieu d'un abus de pouvoir, l'obéissance.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que, si vous voulez, il y a abus quand, quelque part, moi-même, je n'ai pas été capable de recevoir ce qui a été donné. Je pense que, si vous voulez, souvent, on reste... je me souviens que quand j'étais jeune moine, on avait dit qu'il y a au fond trois niveaux d'obéissance. Notre professeur là, de philosophie qui nous enseignait ça, disait qu'il y a au fond une première manière de vivre l'obéissance, c'est, disait, il suffit de regarder une cour de récréation d'une école maternelle où les enfants inventent des jeux très compliqués avec des règles très compliquées. Et le jeu, c'est de respecter les règles. Alors on fait trois fois le tour de l'arbre avant où on n'a pas le droit d'aller tout droit, etc. Les petits enfants, c'est caractéristique. Ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est celui où on invente des jeux très compliqués avec des règles très compliquées. Et le jeu, c'est de tricher sans se faire prendre. Mmh. Donc ça commence à 12 ans et ça finit à 99 ans dans le meilleur des cas. Et puis ensuite, vous avez cette espèce d'autre type d'obéissance qui est vraiment, si vous voulez, l'obéissance du Christ dans l'Évangile. C'est-à-dire, Jésus est quelqu'un qui respecte les règles et parfois, pour de bonnes raisons, est capable d'en sortir, de ne pas se laisser emprisonner dans les règles, dans les normes. Et je pense que, au fond, si vous voulez, le rôle d'une vie monastique, mais d'une vie religieuse, quelle qu'elle soit, hein, c'est de nous conformer au Christ. Ça n'est pas de nous faire de nous des gens soumis. C'est tout le contraire. C'est de donner cette liberté extraordinaire que Jésus avait, par exemple, vis-à-vis du sabbat ou vis-à-vis de tas de règles qui étaient imposées à son époque.
Mais ça veut dire respecter, quitte à ne pas comprendre que l'enjeu nous dépasse.
Ça peut être parfois ça, mais ça peut être aussi parfois accepter de dire qu'on ne souhaite pas le faire. Saint Benoît prévoit un chapitre, d'ailleurs, dans la règle, à la fin de la règle, dans l'obéissance dans les choses impossibles. Impossible, ça ne veut pas dire que c'est pas, qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on a une clause de conscience, quoi, une manière de se trouver face à une difficulté, puis on dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quoi.
On peut dire non.
On peut dire non, et je pense qu'à ce moment-là, bah, on en accepte les conséquences aussi, je crois. C'est important. Je pense que...
Oui, mais là, vous dites ça comme une menace.
Non. Chez nous, il y a souvent des soumissions malvenues. Si vous voulez, il y a des manières aussi de ne pas prendre ses responsabilités personnelles.
C'est compliqué d'entendre ça quand on sait qu'il y a eu des abus.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne dis pas que c'est vrai dans tous les cas. Hein. Parfois, il y a des gens qui abusent.
Parfois, c'est salutaire aussi,
oui,
de partir.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus complexe, si vous voulez, qu'un simple jugement. C'est, de ma part, l'obéissance monastique, hein, concrète, de ma part, il y a aussi un appel à la responsabilité. Et je pense que ça, c'est important qu'un frère le perçoive. Dans une communauté, c'est important. Puis le pouvoir d'un abbé n'est jamais un pouvoir absolu, de toute façon. Je me souviens que le jour où j'ai été élu abbé, un ancien dans la communauté m'a dit « Maintenant, tu vas commencer à obéir. » Parce qu'en fait, dans une communauté monastique, vraiment, l'obéissance, c'est... Parfois, elle n'est pas dans le sens que l'on croit. C'est beaucoup plus compliqué.
Il faut aller plus loin.
Oui, parce que Saint Benoît dit, par exemple, de l'abbé, que c'est celui qui doit sans cesse s'adapter au caractère et à l'humeur des frères. Et il insiste sur ça. Ce n'est pas le frère qui doit faire le pas, c'est vraiment l'abbé. Donc ça suppose que l'abbé accepte de ne pas pouvoir dire les mêmes choses tout le temps, partout, aux mêmes personnes. Il faut accepter de cheminer vers l'autre.
Alors, cheminer vers l'autre et puis le faire dans la joie, parce que c'est aussi dans une des exigences de Saint-Benoît, en tout cas c'est un des chemins qui conduit à la liberté, c'est parvenir à l'obéissance avec joie.
Oui, alors ça, il faut du temps.
De toute façon, cette règle de Saint-Benoît, c'est un travail de toute une vie.
Oui, oui. Mais je pense que c'est un peu comme, si vous voulez, une vie de couple, c'est-à-dire qu'on découvre au fur et à mesure, dans la relation... que ça n'est pas simplement la répétition à l'identique de tout ce qui a été vécu, mais c'est une manière de progresser ensemble. Et dans une communauté, c'est très caractéristique, ça. Cette espèce d'éducation mutuelle qui fait que petit à petit, on découvre des choses ensemble.
Alors, on ne pourrait pas parler de la règle de Saint-Benoît sans évoquer l'humilité. On en a parlé un tout petit peu dans la première émission. Vous résumez en disant que finalement, l'humilité, c'est prendre conscience de la grandeur de sa vocation. Et ça n'est pas aucunement s'écraser, se déprécier, mais c'est beaucoup plus, non pas être parfait, mais plutôt se mettre en chemin, tendre vers. C'est vraiment ça.
Oui, parce que Saint Benoît utilise une image un peu étonnante hein, pour parler. Il parle de la haute cime de l'humilité. Donc, pour lui, ce n'est pas du tout un trou dans lequel on doit se cacher. Oui, il ne faut pas passer entre le mur et la tapisserie. Hein, ce n'est pas du tout le
problème. Elle a parfois été mal comprise, cette humilité.
Je crois que pour Saint Benoît, vraiment, l'humilité, c'est le moment où l'homme va découvrir sa propre grandeur. Mais la grandeur, ce n'est pas dans le sens de se gonfler d'orgueil, etc. Cette grandeur, c'est Dieu même. Et c'est extraordinaire de se sentir aimé de Dieu. Et d'avoir qu'on est tellement important pour lui. Et ça, à partir de là, ça donne sa place juste à l'homme. Parce que quand on a compris qu'on est aimé, beaucoup de choses deviennent possibles.
Mais il faut prendre du temps pour ça. Il faut entendre Dieu nous aimer parce que ça ne vient pas seul. Il semble que ça ne vienne pas dans la vie courante. Il faut s'arrêter pour ça, non?
Je ne sais pas. Je pense que c'est dans l'existence quotidienne... qu'on découvre cette joie d'exister simplement. Et cette joie d'exister, elle est la traduction quelque part de cet amour de Dieu. Je sais, je perçois dans les toutes petites choses de la vie cette espèce de logique positive de l'existence. Parce que je crois que c'est un renversement fondamental, hein. La vocation monastique, c'est cet amour de la vie et ce désir du bonheur. Et je pense que vraiment, quand on a découvert la vie, la beauté de la vie, pour soi-même, pas au niveau théorique, mais dans la vie quotidienne, et ce désir de bonheur qui nous habite au plus profond, les choses changent. Et on voit les événements, les circonstances, les rencontres d'une autre manière.
C'est ça, discerner, c'est en fait trouver, comprendre, saisir où on peut trouver notre plaisir.
Oui, c'est-à-dire... Le plaisir, c'est quelque chose de superficiel. Hein.
C'est orienté, en fait, cette joie, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est plus... La joie, elle est déjà là, en fait. Mais nous, on la couvre souvent d'un voile de récrimination, de protestation ou de revendication. On est sans cesse dans la revendication. Je crois que la joie profonde existe. Et il y a des gens qui ont... Enfin, je pense que chacun d'entre nous en rencontre. Hein, ces gens qui sont profondément... C'est pas qu'ils sont rayonnants simplement parce qu'ils sont. Non pas parce qu'ils font, par les places qu'ils ont ou par l'argent qu'ils peuvent avoir. Simplement parce qu'ils sont. Et c'est vrai dans toutes les classes sociales, ça n'a aucune importance. Mais c'est vraiment cette espèce de découverte de la source qui est en soi.
Merci Don Guillaume. Vous nous parlez de la règle de Saint-Benoît que l'on découvre au fil de ces émissions. Merci beaucoup.